de repentance dans la mesure où justement ce récit nous présente le fils, ce qu'on appelle le fils prodigue, comme étant le modèle ou l'exemple parfait de la véritable repentance dans le Nouveau Testament. En tout cas, ceux qui étaient là jeudi se souviendront. C'est en fonction donc du mot prodigue, c'est en fonction du mot prodigue que nous pouvons aboutir, comme je disais tout à l'heure, à ce titre, la parabole du fils et du père prodigue ou la parabole des deux fils et du père prodigue. C'est en fonction du mot prodigue. En effet, le mot prodigue veut dire dépenser à l'excès, de façon inconsidérée. En tout cas, c'est le cas du fils. On le voit dans une bonne partie du récit. Mais littéralement, prodigue signifie aussi extravagant, excessif, en tout cas, qui fait tout largement, en tout cas, qui fait des largesses, qui fait des extravagances, bref, qui donne sans compter, en tout cas, c'est le cas du père, qui donne sans compter. Comme le fils, lorsqu'il a pris sa part, est parti et a fini par faire des dépenses extravagantes, a gaspillé sa vie jusqu'à dilapider tous ses biens. Le mot prodigue veut aussi dire qui distribue, qui donne abondamment, en tout cas qui se montre généreux, qui est prodigue avec ses amis dans le besoin, qui distribue sans limite, en tout cas sans retenue. Dieu, bien-aimé, est prodigue avec ses ressources. C'est pour cela qu'il est important de saisir que cette parabole de Luc 15 n'est pas seulement la parabole du fils prodigue, mais c'est la parabole aussi du fils et du père prodigue. Et cette parabole nous présente quelques caractéristiques de Dieu le Père. C'est important pour nous de savoir que Dieu est prodigue. Notre Dieu est non seulement un père, mais aussi un père prodigue, un père généreux. La première caractéristique que nous tirons de ce récit est que Dieu, justement, est un père prodigue. Différent, évidemment, de nos papas biologiques. Il transcende l'expérience humaine que nous avions pu avoir avec nos pères. Dans les versets 11 à 12, il est écrit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alors, au cours d'une conversation, au cours d'une causerie, là où on raconte de belles histoires, si vous voulez voir en quelque sorte l'atmosphère changer tout d'un coup, commencez à parler de vos expériences de famille, notamment dans les rapports que les gens ont eus avec leur père biologique, leur papa. Le rôle de nos papas dans les expériences des uns et des autres, en tout cas dans la famille, ça peut paraître hautement émotif, ça peut produire vraiment de l'émotion. Lorsque Jésus est venu dans notre monde au cours de son ministère, il a aussi révolutionné le portrait, l'image que les gens avaient de Dieu. Il a dit que Dieu est aussi un père, à l'image donc de nos papas biologiques. Mais un père, je disais tout à l'heure, qui transcende l'expérience humaine. Vous voyez qu'ils sont nombreux, en tout cas, qui ont eu de très belles expériences humaines avec leur papa. Ils sont nombreux au point de dire que, voilà, mon papa est devenu pour moi un modèle. Il y en a qui parlent même de, entre guillemets, mon papa, c'est mon idole. Donc, on peut regarder à lui, même s'il n'est pas parfait. En tout cas, on peut regarder à lui et cela renvoie à une image positive de Dieu lorsqu'on dit que Dieu est un père. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu puisse être un père, eu égard à, j'allais dire, à tout ce que les religions ont commis. D'ailleurs, même le christianisme traditionnel a donné de Dieu le Père une image qui n'était pas celle de la Bible. Alors ça, c'est un autre débat. Et Jésus vient et dit dans cette parabole, Dieu est un père prodigue, en quelque sorte. Dieu est un père généreux, un père extravagant, extravagant en amour, extravagant en grâce, extravagant en pardon. Il nous apprend qu'il est différent de nos pères biologiques. Vous savez, dans la culture du Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, lorsqu'un fils demandait à son père son héritage comme ce fils, c'est comme si le fils souhaitait la mort de son père. Donne-moi, mais le père est encore vivant. C'est comme si le fils souhaitait la mort de son père. Je veux qu'il meure afin que je profite des biens qu'il va laisser. Tous les commentateurs et historiens qui ont étudié les us et coutumes de l'époque ont fait savoir que ce père, en réalité, aurait dû maudire son fils en le mettant dehors, en le déclarant mort. Oui, l'historien juif Flavius Joseph parle même de l'organisation des funérailles par le père d'un fils qui est encore vivant, mais parce que, ayant manqué du respect justement à son père en réclamant son héritage, alors que le père est encore vivant. Mais ce père est prodigue, il est abondant, il est extravagant, mais parce qu'il ne force pas notre volonté. Cela nous parle d'un Dieu qui donne à chacun, en tout cas, le libre choix, la liberté de choisir, le libre arbitre. Ce fils est libre de partir, mais le Père est extravagant. Il va être miséricordieux. C'est vraiment, voyez, un contraste des deux prodigues. Pendant que le fils a tout gaspillé, a tout dilapidé, le père prodigue, lui, après avoir tout encaissé, voyez, est toujours prêt à l'accueillir quand il prend la décision de revenir. Lorsqu'il eut tout dépensé, dit le texte, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 14, le fils a fait ce qu'il voulait faire. Il est allé avec ce qu'il voulait aller. Il a explosé toutes les normes, toutes les valeurs, tous les principes et convictions de son père. De sorte que son frère dira ceci au verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est une vie très loin de Dieu, complètement éloigné des valeurs divines, des valeurs bibliques, au point où Jésus dit que le fils prodigue, extravagant dans sa débauche, dans sa façon de vivre, il est sans limite, sans frein dans toute sa déchéance. Mais le Père, lui, est prodigue justement dans son pardon, sans limite, prodigue dans sa miséricorde. Dieu n'est pas un Dieu de parcimonie, bien-aimé, Dieu est un Dieu de plénitude. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petitesse, un Dieu pingre, mais c'est un Dieu de largesse, un Dieu de libéralité, un Dieu extravagant. Il est extravagant dans son amour pour nous. Ton Dieu est extravagant dans sa grâce pour toi. Ton Dieu est extravagant dans son amour pour toi, dans sa patience pour toi, dans sa capacité, en tout cas, à garder ses bras ouverts, notre Dieu. Cette parabole, donc, du Père et du Fils prodigue, nous apprend que le Père est différent, en tout cas, dans toutes les dimensions de l'expérience humaine que l'on peut avoir avec nos pères. La deuxième pensée que l'on tire de cette parabole, c'est que Dieu est un Père, mais un Père qui attend et qui accourt les bras ouverts. Un Dieu qui attend et qui accourt les bras ouverts. Non seulement il est rempli d'affection, mais surtout il manifeste et exprime cette affection. Verset 20, il se leva et alla vers son Père. comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, le père. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il voit son fils de loin et il est gagné par la compassion qui est un sentiment intérieur profond. Il est remué, le père, dans son fort intérieur. Ensuite, il doit agir. Il le voyait de loin. Jésus nous dit que les yeux de son père, en tout cas, sont fixés sur celui ou celle qui est éloignée de lui. Fixés sur celui ou celle qui lui fait honte. Fixés sur celui ou celle qui le rejette, le maudit, le méprise. Mais il attend. Il attend chaque être humain avec les bras ouverts. Le père est tellement ému de compassion qu'il court se jeter à son cou et l'embrassa. Et là, une fois encore, dans la culture du Moyen-Orient de l'époque, le père n'aurait jamais couru. Le père n'aurait jamais couru. Dieu est vraiment au-dessus des coutumes et traditions humaines. Courir est un signe de panique. Il aurait dû garder son sang-froid, comme les philosophes disent, il aurait dû rester stoïque, car le stoïcisme, justement, était un signe de grandeur. Les commentateurs le comparent ce père à un pharisien qui, mais le jour de sabbat, voit toute sa famille périr dans un incendie et se met à intervenir. Le jour de sabbat, pour un pharisien, se mettre à intervenir, alors que c'est le jour de sabbat. Voyez, mais Dieu n'est pas stoïque, Dieu n'est pas froid. Voilà pourquoi Jésus pouvait opérer des miracles même le jour de sabbat. Le père prodigue court pour se jeter au cou de son fils. D'après Jésus, tous ceux qui sont loin de Dieu n'ont pas d'abord à faire leur preuve avant de revenir. Non. Alors que tu es encore loin, alors que tu n'as pas tenu compte de la volonté de Dieu dans sa vie, ses yeux sont toujours fixés sur toi. Il suffit que tu fasses un pas vers lui et lui va courir vers toi pour t'accueillir. Il est formidable, notre Dieu. Humainement parlant, les gens allaient dire, mais quel est ce père? Quel est ce père qui court vers un fils qu'il a appauvri? Quel est ce père qui court vers un fils qui lui a fait honte aux yeux de tous? Il va quand même l'accueillir, mais ce n'est pas normal. Il aurait dû ne pas l'accueillir, lui claquer la porte au visage. Il aurait dû le chasser, de ne plus revenir. Mais non, il vient pour l'embrasser, le couvrir de son affection. Dans cette parabole du fils et du père prodigue, bien aimé, le père nous apprend qu'il est vraiment différent des pères humains. Il nous attend, il accourt, il est rempli d'affection, un père qui aime et accorde ses richesses en abondance. Au verset 20, alors qu'il était à son pire, il était encore fils. Même lorsque nous sommes au plus bas de notre relation avec Dieu, il est toujours un père pour nous. Rien, en tout cas, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dit l'apôtre Paul, manifesté en son Fils Jésus-Christ. Lorsque tu reviens en disant, Seigneur, je vais me contenter du peu, je veux juste un minimum, mais Dieu te dit, je suis un père prodigue. Je suis un père prodigue, un père qui aime donner en abondance. C'est le Dieu de la restauration. Voilà l'autre pensée que nous trouvons dans cette parabole. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il ne s'agit pas de dire, rentre à la maison et va directement dans ta chambre. Puisque tu as dilapidé mon bien, puisque tu m'as appauvri, rentre directement dans ta chambre. Non, d'abord, la restauration dans la réjouissance. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. La robe, justement, c'est la restauration dans sa position de fils. L'anneau, c'est littéralement le sceau d'appartenance pour dire que tu es ici, chez toi, c'est ta maison. Tu n'es pas un esclave, mais véritablement un fils. Tu as accès à la grâce de Dieu, tu as accès à l'amour de Dieu, tu as accès à la destinée de Dieu pour ta vie, à la pleine mesure que Dieu a en réserve pour toi. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu, un Père prodigue. Bien-aimés, l'autre idée, c'est que Dieu est un Père qui appelle tous ses fils. Il appelle tous ses fils. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais parce que non seulement c'est la parabole du fils et du père prodigue, mais c'est aussi la parabole des deux fils et du père prodigue. Le fils aîné est là aussi. On parle de lui à partir du verset 25. Il n'a pas apprécié le comportement de son père. Et le verset 28 dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. » Et surtout, il dit, « Et tout ce que j'ai est à toi. » Tout ce que j'ai. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans ce tout? Tout ce que j'ai est à toi. Dieu appelle tous ses fils. Il dit tout ce qu'il a, c'est pour les enrichir, c'est pour enrichir ses enfants, ses fils. Ça sonne 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. » Le fils qui était loin a eu besoin de revenir. Et nous qui sommes à l'intérieur avons aussi besoin de revenir comme des fils prodigues en imitation au Père prodigue. Nous devons être prodigues, nous aussi, extravagants en pardon, extravagants en amour, en compassion, en accueil pour de nouvelles personnes, extravagants dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Que l'Esprit de Dieu vienne remplir l'esprit de chaque enfant de Dieu, qu'il vienne remplir chaque église, afin que nous soyons pleinement conscients du fait que Dieu est un Dieu prodigue, un Père prodigue, et que nous aussi devons être animés de cette extravagance qui est celle du Père. Seigneur, donne-nous ton cœur, ramène-nous à ton cœur. Appelle tous ceux qui ont quitté la maison familiale et qui sont partis loin de toi. Fais-leur sentir ton amour plus que lorsqu'ils étaient dans ta maison, afin qu'ils réalisent qu'ils peuvent toujours revenir et qu'ils seront accueillis par un Dieu extravagant dans sa compassion, extravagant dans son amour. Seigneur, fais de nous des églises prodigues. Nous arrivons donc à notre deuxième point qui est la véritable repentance que nous trouvons aussi dans ce passage. Dans cette parabole du fils prodigue enseignée par Jésus lui-même, nous y voyons comment le fils prodigue tourne le dos à son père et à sa maison, s'en va vers un pays lointain et y dépense tout ce qu'il a dans le péché et la dissolution. Alors la suite nous présente un autre portrait, on l'a dit, affamé, solitaire, assis au milieu des pourceaux, en tout cas désirant ardemment quelque chose à mettre sous la dent, qui lui remplisse l'estomac. À partir de là, il recouvre la raison. À ce stade, nous lisons au verset 18 qu'il a pris une décision. C'est important, il a pris une décision. Ensuite, nous lisons au verset 20 qu'il a immédiatement agi selon sa décision. Et il se leva et alla vers son père. Voilà l'exemple de la véritable repentance. D'abord la décision intérieure, puis l'action extérieure qui exécute cette décision. Ici, le fait de retourner chez son père. Tout être humain, de par sa condition naturelle d'homme pécheur non régénéré, a tourné le dos à Dieu, son père, et au ciel, sa maison. Dans ces conditions, chaque pas en avant est un pas qui éloigne un peu plus de Dieu et du ciel. En marchant ainsi, la lumière est derrière et l'obscurité précède. Plus on avance, plus les ténèbres deviennent épaisses et abondantes, de sorte que chaque pas est un pas qui rapproche un tel individu de la fin. Un pas de plus vers la tombe, vers l'enfer, vers l'obscurité sans fin de la perdition éternelle. Pour chaque homme qui a choisi ce chemin, il y a une chose qu'il doit faire. D'abord, faire un acte essentiel qu'il doit accomplir. Il doit s'arrêter, changer d'avis, de direction, faire demi-tour, se détourner, faire face au côté opposé, tourner le dos aux ténèbres et embrasser la lumière. Ce premier acte essentiel est appelé dans l'Écriture la repentance. C'est le premier geste que doit faire tout pécheur qui désire se réconcilier avec Dieu. Pour prendre un cas opposé à celui du fils prodigue, Matthieu chapitre 27, au verset 3 et 4, nous parle de Judas Iscariote, notamment quand il a vu que Christ avait été condamné à mort. La suite montre qu'il ne s'était pas réellement repenti. Le verset suivant dit « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Il avait certainement éprouvé une forte émotion. Il avait éprouvé des remords, mais il n'a pas vécu la véritable repentance. Il n'a pas changé d'avis. La vérité, c'est qu'il ne pouvait pas le faire vu qu'il était allé trop loin. Malgré l'avertissement de Jésus lui-même, il s'était délibérément engagé dans une direction dans laquelle il n'avait plus de possibilité de retour. Il avait donc dépassé le stade de la repentance. En fait, comme mon frère a dit, il avait choisi son Dieu, l'argent. Il voyait tous les événements, toutes les situations en fonction de l'argent. Il avait choisi maman comme son Dieu. Il voyait tout en rapport de l'argent. C'est une leçon terrible et solennelle. Frères et sœurs, il est possible pour un homme, en continuant à poursuivre sa propre voie avec obstination et entêtement, d'arriver à un point tel que la porte de la repentance est fermée pour toujours. Non pas par Dieu, mais à cause justement de l'entêtement et de l'obstination. La repentance, c'est le seul chemin vers la véritable foi. Le Nouveau Testament est totalement unanime sur le point suivant. La véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. Sans une véritable repentance, il ne peut y avoir de foi véritable. Sans une véritable repentance, il ne peut y avoir de foi véritable. L'appel à la repentance commence tout au début du Nouveau Testament avec le ministère de Jean-Baptiste. Marc chapitre 1, versets 3 et 4, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. D'après ce passage, l'appel à la repentance de Jean-Baptiste était une préparation nécessaire pour que le Messie soit révélé à Israël. Tant qu'Israël n'avait pas été appelé à la repentance par Dieu, leur Messie tant attendu ne pouvait se révéler parmi eux. Tout au long du Nouveau Testament, sans exception, la repentance est la première réponse que Dieu demande après l'écoute de l'Évangile. Rien ne peut venir avant et rien ne peut la remplacer. La véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. Sans une telle repentance, la foi seule est une simple profession vide de sens. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'expérience de certains chrétiens est si instable, est si peu profond. Ils essaient de bâtir sans le premier grand fondement des doctrines, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Ils professent la foi, mais n'ont jamais expérimenté la véritable repentance. Et le résultat, c'est que la foi qu'ils professent ne leur procure ni la faveur de Dieu, ni le respect du monde. Dans de nombreux endroits aujourd'hui, la simplification du message de l'Évangile est allée trop loin. On vous appelle à Christ juste parce que Christ est capable de satisfaire à vos besoins. Venez à Jésus et il vous enrichira. Croyez seulement, venez, croyez seulement. Mais ce message n'est pas celui de Christ. Lui et ses apôtres ont prêché, repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez. Donc, tout prédicateur qui laisse de côté l'appel à la repentance, en réalité, trompe les pécheurs et dénature Dieu. Car dans Actes chapitre 17, verset 30, l'apôtre Paul nous dit que c'est Dieu lui-même. Que c'est Dieu lui-même, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est l'ordre, c'est l'édit général de Dieu pour la race humaine tout entière. Tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Souvent, les gens pensent que toutes les religions qui existent dans le monde, en fait, sont des chemins qui mènent vers Dieu. Et donc, on peut emprunter tel ou tel autre chemin, on aboutira forcément à Dieu, selon qu'on est chrétien, bouddhiste, musulman, que sais-je encore, etc. Un adage populaire dit « tout chemin mène à Rome ». Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui seul qui conduit au ciel. C'est le seul qui a fait le voyage dont parle Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Il a quitté le ciel, il est venu jusqu'à nous et il est reparti au ciel. C'est le seul. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est parce que Jésus est Dieu, fait homme, que le péché peut être pardonné. C'est parce que Jésus s'est fait homme que le péché peut être pardonné. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le manque de religion. Quand Dieu appelle Abraham en Ur et Chaldée, mais les religions existaient déjà en Mésopotamie ancienne. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le manque de religion. Adam et Ève ont été chassés du paradis, non pas parce qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient plus prier Dieu. Ils n'ont pas arrêté d'être en communion avec Dieu, mais ils ont cependant désobéi à Dieu. Et Dieu les a expulsés du paradis à cause d'un péché. Un péché. Et aujourd'hui, pour l'homme non régénéré, éloigné de Dieu, que faire pour revenir à Dieu de sorte qu'après la mort, qu'il soit trouvé en Dieu? Que faire? Adam et Ève ont quitté Dieu à cause d'un péché. Mais comment nous, les humains, qui avons beaucoup plus qu'un péché, pouvons revenir dans cette même gloire que eux, ils ont perdue? Nous, avec de nombreux péchés. Comment? Le plan de Dieu à travers l'œuvre du Fils est qu'il faut que l'homme retourne au ciel sans péché. Sans péché. Alors, je dis bien sans péché. Pas avec un péché, pas avec deux péchés. Non, sans péché. Vous voyez? Mais cela est impossible. Cela est impossible aux hommes. Le ciel est pur. Le ciel de Dieu est pur. Il n'y a aucune souillure qui peut entrer au ciel. Dieu est saint, tellement saint. C'est pourquoi, pour une seule souillure, Dieu a expulsé l'homme. Aucune souillure ne peut entrer au ciel. Dieu, dans sa démarche, donc, va faire deux choses dans la gestion du péché. Il va premièrement pardonner le péché. C'est important de comprendre cela. Il y a le pardon des péchés, de l'acte commis. Si par exemple quelqu'un te blesse avec un couteau, avec une arme, il y a l'acte de la méchanceté, de sa part, donc te blesser. Et ton pardon à son égard ne va pas pour autant effacer la cicatrice. Pardonner, mais la cicatrice y est. Et donc, Dieu pardonne l'acte de péché, et ce d'ailleurs depuis l'Ancien Testament. Mais la chose la plus difficile, en fait, c'est enlever le péché, c'est-à-dire laver l'homme de la souillure du péché, laver l'homme des conséquences liées au péché, la saleté qui s'est posée sur l'âme. C'est ça que Jésus-Christ aussi va traiter. Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils s'étaient salis à cause d'un péché. Alors comment l'homme peut retourner au ciel de Dieu, avec beaucoup plus de saleté qu'Adam et Ève? Voyez, ce faisant, Dieu va venir sur la terre, prendre une forme humaine pour être en contact avec les humains. Il va donner sa vie pour les hommes, il va porter le péché de l'humanité, de sorte que quiconque croit en lui, reçoit le pardon des péchés. Si tu te noies et si tu crois à celui qui vient à ton secours pour te sauver de l'eau, tu vas en profiter. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas en profiter. Le pardon des péchés est pour ceux qui croient. Jésus est venu pour donner aux hommes l'opportunité d'être pardonnés de l'acte de péché et d'être totalement lavés de la souillure du péché. Bien-aimés, Dieu est un Père prodigue. Un Père qui attend, on l'a dit, et qui accourt les bras ouverts. C'est le Dieu de la restauration et de la réjouissance. C'est un Père qui appelle tous ses fils, Il veut que tout le monde soit sauvé, mais parce que non seulement c'est la parabole du fils et du Père prodigue, mais c'est aussi la parabole, voyez, des deux fils et du Père prodigue. Nous avons parlé aussi de la repentance, qui est le premier geste que doit faire tout pécheur qui désire se réconcilier avec Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole. Amen.